40 à Paris.
Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
La communauté internationale condamne une provocation.
L'ONU exige un corridor humanitaire en Birmanie pour venir.
La communauté internationale s'indigne, mais elle est paralysée.
Ce mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé l'arrêt immédiat des violences.
Mais vous parliez que, comme si on était les maîtres du monde. Je serais très content qu'il existe. Mais c'est un mensonge, c'est une fake news de parler de communauté internationale.
L'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui ne croit plus depuis longtemps au concept de communauté internationale. Fake news, dit-il, reprenant l'expression popularisée par Donald Trump, le président américain, lui-même très critique vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies, qu'il juge obsolète, inefficace et surtout très coûteuse. Sur les grands drames du siècle, la guerre en Syrie, la crise humanitaire au Yémen, le sort des réfugiés Rohingyas en Birmanie ou des migrants en Méditerranée, à chaque fois l'ONU s'indigne, condamne, appelle au respect du droit international, au moins à celui de la dignité humaine. À la tribune à New York, les diplomates s'invectivent, mais les grandes envolées semblent trop rarement suivies des faits. Alors l'ONU unit-elle encore les nations? L'ONU est-elle encore utile? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Bernard Millet. Bonsoir.
Bonsoir.
Bernard Millet, vous êtes ancien secrétaire adjoint des Nations Unies, chargé du département des opérations de la paix. C'était entre 1997 et 2000. Vous êtes aujourd'hui président de l'Association française pour les Nations Unies. Face à vous, Serge Sûr, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur émérite de droit public à l'université Panthéon-Assas et rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Première question. Que pensez-vous l'un et l'autre de cette expression de communauté internationale très critiquée par Hubert Védrine et par d'autres, Bernard Millet ?
Je veux dire que international, on ne peut pas contester que ça existe. Communauté, c'est l'état des relations entre les divers États. Est-ce qu'ils sont capables de trouver des consensus et de faire avancer les choses, ou est-ce qu'ils sont dans l'incapacité de trouver des solutions ? Alors, il y a des périodes pour ça. Il y a un excellent article de la revue Foreign Affairs qui vient de sortir, qui explique très clairement que il y a eu trois phases depuis l'après-guerre. Une première phase qui était celle de la guerre froide, pendant laquelle les deux blocs, en fait, n'avaient aucun intérêt à trouver des solutions.
Il y avait deux communautés internationales.
Il y avait deux communautés internationales. On ne pouvait trouver aucune solution à aucun conflit parce que ça allait être l'échec de l'un ou l'autre. Et puis, il y a eu toute l'illusion à partir de la chute du mur de Berlin jusqu'au 11 septembre qui était de se dire là, on a une vraie communauté internationale, il n'y a plus de différents idéologiques, on va pouvoir construire un monde plus cohérent, et il y a eu à la fois une part d'illusion, mais beaucoup d'avancées. Et depuis le 11 septembre, on est dans une autre phase qui est beaucoup plus multipolaire, dans des situations, et la Syrie en est un, où finalement, personne ne veut accepter la défaite. Donc on n'arrive pas à trouver de solution.
Serge Sûr.
Tout à fait. Moi, j'adopterais peut-être un angle un peu différent pour l'analyse. Je dirais que la distinction classique, c'est entre communauté et société. La communauté est censée être chaude, c'est-à-dire aller au-delà des règles et comporter des valeurs communes et le sentiment d'une appartenance commune à un monde unique. Société, c'est quelque chose de plus froid. C'est l'idée qu'il y a simplement des règles de contact, des règles de comportement qui sont communes à l'ensemble. Et indiscutablement, il y a une société internationale. L'ONU en est l'expression, ou l'une des expressions, mais certains traités, on parle aujourd'hui beaucoup de l'érosion du multilatéralisme, et c'est vrai, on ne conclut plus de traités multilatéraux, mais il faut bien voir que l'architecture de cette société internationale, elle repose sur une quinzaine de grands traités multilatéraux, qui sont appliqués de façon tout à fait régulière, sans aucune difficulté, qui font par exemple que le transport aérien fonctionne tous les jours et fonctionne de façon absolument internationale, mais ça n'est qu'un exemple, il y en a d'autres, dans d'autres domaines, le domaine de la santé publique et même le domaine de la maîtrise des armements. Et tout cela, ça forme un socle. Et au centre de ce socle, nous trouvons les Nations Unies, non seulement la charte, mais aussi l'Organisation des Nations Unies.
Alors justement, puisqu'on en parle, puisque c'est le débat de ce jour, la place des Nations Unies dans ce monde qui est désormais multipolaire, quelle est-elle aujourd'hui ?
Mais elle est toujours le lieu, les Nations Unies, où se rassemble l'ensemble des pays. Je veux dire qu'il y a malgré tout...
Qu'est-ce que c'est les Nations Unies aujourd'hui ?
Les Nations Unies, c'est à la fois un ensemble qui est totalement impalpable pour les gens. On ne sait jamais si c'est le secrétaire général des Nations Unies et l'administration des Nations Unies qui font marcher la machine, si c'est le Conseil de sécurité, c'est-à-dire le fameux 5 membres permanents qui mènent la danse en matière de paix et de sécurité, si c'est l'Assemblée générale, l'Assemblée de l'ensemble des États du monde ou les plus petits, ou toute la galaxie, Serge Sûr évoquait tout à l'heure l'aviation civile, toutes ces institutions, le BIT, l'OMS, l'Organisation du commerce, tout ça, du travail, tout ça sont des organisations qui, au jour le jour, font des choses essentielles pour la vie en commun.
Et qui dépendent de l'ONU ?
Et qui font partie de la galaxie de l'ONU, y compris, d'une manière un peu moins rattachée, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Donc il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, finalement, les Nations Unies travaillent aujourd'hui, qui ne sont pas seulement les aspects de maintien de la paix.
Alors, je dirais que dans le préambule de la charte, il y a une certaine ambiguïté, parce que le texte français parle d'organisation des Nations Unies, et en anglais, on dit plutôt UN, United Nations. Autrement dit, il y a une logique de coalition, et la pensée française est plutôt institutionnelle, et la pensée anglo-saxonne est plutôt coalition. C'est pas tout à fait la même logique. Et le Conseil de sécurité, par exemple, c'est plus une coalition qu'une institution, parce que c'est les 5 membres permanents qui sont au cœur et dont l'accord définit l'ensemble. Alors, il y a au moins 3 ONU, si on ne parle pas pour l'instant des institutions spécialisées. Il y a l'ONU des grandes puissances, qui est le Conseil de sécurité, l'ONU des petites puissances, qui est l'Assemblée générale, et puis l'ONU du secrétariat, qui est très important parce qu'il mène beaucoup d'actions opérationnelles sur le terrain.
Dirigé aujourd'hui par Antonio Guterres.
Dirigé par Antonio Guterres, et il est le bras, je ne dirais pas le bras armé, le bras civil, mais le bras actif de l'ONU. Alors pendant une certaine période, pendant la période de la guerre froide auquel faisait allusion Bernard Millet, c'était l'Assemblée générale qui dominait, parce que le Conseil était paralysé. Donc on avait toute une série de résolutions déclaratoires sur les droits des pays du tiers-monde, sur le développement, sur le nouvel ordre économique international. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Et l'instance majeure de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité.
Tout de même,
l'actualité... C'est une institution à éclipse, mais quand même, il fonctionne.
Mais l'actualité onusienne la plus récente, c'est le vote la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU que vous venez de mentionner, d'une résolution exigeant un cessez-le-feu de 30 jours dans la route orientale en Syrie. Résolution votée à l'unanimité. Finalement, ce sont les Russes, Vladimir Poutine, qui ont donné l'ordre d'appliquer ce cessez-le-feu. Et ce sont eux aussi qui ont déterminé les modalités sur cet exemple précis. À quoi aura servi vraiment l'ONU, Bernard Millet ?
Elle a justement servi à établir un cessez-le-feu qui est plus ou moins respecté, mais il y a des couloirs humanitaires, il y a eu réduction de l'un.
Enfin, ça n'a marché que parce que les Russes ont bien voulu le faire.
Mais tout ne fonctionne au Conseil de sécurité qu'à partir du moment où les 5 membres permanents sont d'accord. Si l'un d'entre eux ne le veut pas, rien ne se passera. C'est pas l'ONU qui est responsable, c'est l'État qui va refuser de trouver un compromis, une solution au sein du Conseil de sécurité.
J'insiste un petit peu, parce que la formule qui avait été employée dans les deux jours qui ont suivi le vote de cette résolution, c'était « Vladimir Poutine ordonne le cessez-le-feu en Syrie ».
Vladimir Poutine n'ordonne pas. Il a accepté, sous la pression des 3 autres membres permanents occidentaux, de pousser Assad à accepter et lui-même de se rallier à une résolution qui a été proposée, pas par lui, mais par les Britanniques, les Français, les Américains.
Serge Sûr.
Alors moi, je voudrais peut-être replacer la question syrienne dans un cadre plus général qui est celui du Proche et du Moyen-Orient. Il faut bien dire que cette région, c'est le tombeau du droit des conflits armés. On a l'impression qu'il ne s'applique en aucune façon. Aussi bien dans sa partie jus ad bellum, c'est-à-dire droit de recourir à la force, on voit bien que les États recourent à la force librement sans se préoccuper du droit international, que dans sa partie droit humanitaire, c'est-à-dire jus in bello. Et là, on a l'impression que le droit humanitaire, que ce soit les conventions de Genève, que ce soit l'interdiction des armes chimiques, tout ça est violé par, non pas seulement par le régime Assad, mais par bien d'autres pays. Et donc, c'est une région dans laquelle on a l'impression que le droit s'est effacé. Et le Conseil de sécurité, il fait ce qu'il peut. Il a le grand avantage d'être un instrument de concertation permanent entre les membres permanents qui se rencontrent tous les jours, qui ont des consultations régulières, et on pourrait dire que c'est une machine qui permet de lâcher de la vapeur.
Qui permet non seulement de consultations purement diplomatiques ou est-ce que ce sont des consultations qui ont tout de même un rôle effectif sur le terrain ?
Ah bah d'abord, elles sont diplomatiques. Elles ne peuvent ensuite avoir un rôle sur le terrain que dans la mesure où un accord s'est dégagé et où il y a un consensus qui est établi. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce sont les Russes qui ont demandé la réunion du Conseil de sécurité. Ce sont eux qui semblaient vouloir trouver une porte de sortie, une porte peut-être d'apaisement relatif dans cette affaire. Ils ont atteint leurs objectifs, donc ils n'ont pas tellement besoin d'aller plus loin. Le régime Assad est maintenant au cœur de l'église, au cœur du village, si je puis dire, et il est devenu une composante essentielle de toute négociation. Donc les Russes ayant atteint leurs objectifs, après tout, le cessez-le-feu ne les dérange pas, et même ils peuvent se donner le luxe d'être ceux qui sont les faiseurs de paix.
C'est d'ailleurs la deuxième fois que ça se produit, puisque ça s'était produit au moment de l'utilisation des armes chimiques, et ce sont les Russes qui avaient trouvé la solution pour que Obama n'ait pas à intervenir.
Enfin, tout de même, sur les armes chimiques, il y a eu, puisqu'on parlait aussi de la partie judiciaire de l'enquête, quand il y a eu le JIM, là, le Joint Mechanism Initiative, je crois que c'était ça le en anglais, cette initiative qui dépendait de l'ONU, qui était censée mener l'enquête sur les attaques chimiques, notamment de Ran Shirun, les Russes, à un moment, ont dit non, stop, on arrête, c'est un instrument occidental qui est fait contre nous. Quel est le pouvoir de l'ONU dans ce cas-là? Il paraît très impuissant, quand même, sur... voilà, vous disiez tout à l'heure, Serge Sûr, c'est le tombeau des droits humains et du droit international. Quand l'ONU ne peut rien faire là-dessus.
Ben, l'ONU ne peut agir que dans la mesure où les membres permanents sont d'accord. Nous retombons toujours sur cette difficulté qui fait que le Conseil de sécurité, c'est une institution à éclipse. Il y a toute une série de domaines.
Qu'est-ce que vous voulez dire par à éclipse ?
Il y a toute une série de domaines dans lesquels le Conseil peut agir, et il a agi parfois de façon extrêmement efficace, notamment dans le conflit, la première guerre du Golfe en Irak entre 90-91. Là, il agit vraiment d'une façon efficace. Il a monté une opération extrêmement complexe, et ensuite il a mené, avec la résolution 687, toute une opération de désarmement et de vérification contre l'Irak, qui a été également efficace. Bon, donc il peut fonctionner dès lors que l'accord existe. Mais il a cette contrainte, il a cette difficulté structurelle.
On ne peut pas dépasser cette problématique initiale. Le Conseil de sécurité est fait de puissances qui ont des intérêts propres et qui donc peuvent avoir une puissance de blocage.
Bon, il faut pas être trop candide ou ingénu. Je veux dire que les rapports de force en grande puissance ont toujours existé et existent toujours. Heureusement, par rapport à la Société des Nations où les Américains n'étaient pas dans le jeu, là, on a les cinq grandes puissances, et en échange de la présence des cinq grandes puissances, il y a le droit de veto, donc cette possibilité de bloquer ou pas, et il y avait aussi les éléments de non-ingérence dans les affaires intérieures, de respect de la souveraineté nationale, qui font partie de tout, c'est un équilibre.
Ça soulève quand même deux questions. Alors, on va rappeler les cinq puissances, c'est la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie. Est-ce qu'elles sont encore représentatives aujourd'hui du monde tel qu'il est, le monde bipolaire tel qu'il existe? C'est plus le monde de l'après-guerre, c'est plus le monde de la guerre froide. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est représentatif tout court de ce qu'est le monde d'aujourd'hui? Serge Sûr.
Alors écoutez, d'abord je voudrais dire un mot du veto. Ouais. Parce que très souvent on dit que si le Conseil ne fonctionne pas, c'est à cause du veto. À mon avis, c'est une illusion complète. Les Nations Unies sont construites autour du veto. Ça n'est pas malgré le veto.
Bien sûr.
Mais c'est autour du veto. C'est parce qu'il y a le veto que les Nations Unies existent. Les grandes puissances n'auraient jamais accepté de lier leur sort.
Ce qui permet d'assurer qu'elles restent dans le jeu diplomatique.
Voilà. Oui, oui. Et puis surtout que elles restent maîtresses de leur sécurité. Le veto leur permet d'être absolument responsables de leur sécurité. Elles n'auraient rien accepté d'autre. Et j'ajoute que le veto, il a pour les Nations Unies une signification positive. Rappelez-vous 2003. On allait entraîner le Conseil de sécurité dans une action en Irak qui était contraire à la charte et qui reposait sur des faits mensongers, sur des fake news.
Alors on avait prétendu que le régime Saddam Hussein
voilà,
avait des armes
de destruction massive qu'il n'avait pas. Mm-hmm. La France a menacé d'opposer son veto, ça a tout arrêté. Eh bien, ce faisant, la France a sauvé l'honneur du Conseil de sécurité. Parce que s'il avait couvert une action qui reposait sur des mensonges, que resterait-il de sa légitimité?
Enfin, je pourrais vous citer les multiples résolutions et les multiples blocages de la Russie sur le conflit syrien qui dure depuis 7 ans quand même.
Oui, tout à fait.
Repose aussi sur en partie des mensonges.
Je ne dis pas que le veto n'a pas que des avantages, mais il a des avantages, dont ceux que je viens de dire. De toute façon, il est incontournable, on ne le changera pas. Maintenant, pour ce qui est de la composition du Conseil de sécurité, ça fait une vingtaine d'années que les projets de réforme existent. depuis la chute du mur de Berlin,
oui,
au fond.
Oui, oui, oui. Mais ils sont nécessaires, on est d'accord là-dessus.
Mais ils sont nécessaires, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il n'y aura pas de réforme de la composition du Conseil parce qu'on ne trouve pas d'accord. Et là, ce sont les petits pays qui y sont opposés. Parce que, par exemple, l'Argentine ne veut pas que le Brésil devienne membre permanent. Le Pakistan ne veut pas que l'Inde devienne membre permanent. La Chine ne veut pas du Japon, etc., etc.
L'Afrique du Sud,
et donc, tout le monde
Nigeria,
se... voilà.
Mais est-ce qu'on prend
tout
pas
le monde
que ces pays, le Brésil, l'Inde, puisque vous citez ceux-là, qui sont d'énormes pays en termes de population, en termes économiques, qui représentent des régions du monde qui sont assez peu représentées sur la scène internationale, est-ce qu'on pourra voir le risque que ces pays décident de claquer la porte tout simplement, puisqu'on leur dit on n'est pas respecté.
Ils ne quitteront certainement pas les Nations Unies, parce que pour eux, c'est la porte ouverte sur l'universel. Sur le multilatéral. Ils resteront. Et l'Inde a un comportement généralement frustré aux Nations Unies.
Bernard Minier, je peux vous laisser
répondre. Oui, non, le problème qu'évoque Serge Sûr entre ces pays, c'est pas le fait qu'ils sont frustrés de ne pas y être. C'est que les rivalités internes à chaque continent interdisent de trouver entre eux un consensus sur l'État qui pourrait les représenter. Vous n'allez pas dire l'Inde, qui est le pays le plus peuplé, le Pakistan ne pourra jamais accepter que l'Inde en soit. Et l'Indonésie pourrait le revendiquer au même titre, plus grand pays musulman au monde. En Afrique, c'est la même chose.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que la France cède sa place à l'Union européenne, par exemple?
Oui, mais ça, c'est un autre faux problème. Vous imaginez les débats au sein de l'Union européenne où il faudra 6 mois avant de trouver une solution pour un problème qu'il faut traiter dans les 2 heures qui suivent.
Alors,
là aussi, il y a encore beaucoup d'illusions, d'ingénuité sur ce genre de choses.
Il y a des États au Conseil de sécurité. L'Union européenne n'est pas un État.
Bien sûr.
Alors, dans l'hypothèse où elle deviendrait un ensemble fédéral et un nouvel État, oui, bien sûr, la question se poserait.
Mais on n'en est pas là. Elle
ne se pose pas.
Alors, quand on débat du rôle de l'ONU et de sa puissance ou de son impuissance, on pense forcément au casque bleu, la force, le bras armé des Nations Unies. On en a beaucoup parlé pendant les années 90, les soldats de la paix, une force militaire qui allait s'interposer dans les conflits. On n'en parle presque plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, Bernard Meillet ?
On n'en parle plus. Il y a plus de 100 000 hommes sur le terrain, dans des pays où personne n'imagine de les retirer aujourd'hui.
Où sont-ils aujourd'hui?
Eh ben, ils sont en Afrique, vous en avez en République centrafricaine, au Mali, en République démocratique du Congo, vous en avez...
C'est encore une force d'interposition, les Nations Unies aujourd'hui.
C'est une force qui, en principe, dans chacun des cas, est là pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité et un accord de paix qui a été signé. Comme toujours dans les accords de paix, la bonne foi des parties, leur engagement font qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Les forces de maintien de la paix ne se sont jamais des forces d'imposition de la paix. Donc on fait une confusion souvent en pensant que les casques bleus sont des militaires qui vont rentrer dans le tas. Ça n'est pas le cas, c'est contraire.
D'autant qu'ils sont particulièrement ciblés aujourd'hui. Je lisais en préparant cette émission que les pertes humaines de casques bleus ont été plus importantes depuis 2013 que entre la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et...
Mais on revient à ce que disait Serge sur aujourd'hui, c'est des conflits dans lesquels il n'y a plus de règles du jeu, c'est plus des conflits interétatiques, c'est des conflits intra-étatiques avec du terrorisme, donc on est dans des nouvelles formes de conflits.
Mais ça veut dire que les casques bleus et donc les Nations Unies ne sont plus respectés sur le terrain, il nous reste 30 secondes, Serge Sûr.
Écoutez, parmi les exemples qu'a cité, ou en plus des exemples qu'a cité Bernard Millet, moi je dirais qu'il y a la situation de la FINUL au Liban. Et la FINUL est très proche du conflit syrien. Pour l'instant, elle n'est pas attaquée, elle joue son rôle, mais il faut reconnaître qu'elle est dans une situation fragile. Et par définition, les opérations du maintien de la paix sont fragiles.
Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Millet, Serge Sûr. On a envie de continuer. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, Bernard Millet. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire adjoint des Nations Unies, chargé du département des opérations de la paix. Vous êtes aujourd'hui président de l'Association française pour les Nations Unies. Serge Sûr, vous êtes juriste, professeur émérite de droit public à l'Université Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Merci également à Sigrid Azerwal et au service documentation de RFI. À la réalisation, il y avait Jenab Sangaré. Merci aussi à elle.